Bonjour, Raymond Brichard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire. Alors aujourd'hui, dans la première partie d'émission, en ce qui concerne l'actualité, je voudrais vous parler du dernier rapport des experts du GIEC. Alors le GIEC, c'est ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors ils livrent leur cinquième rapport. Il y a eu un quatrième rapport en 2007. Et depuis 1990, donc, ces experts se réunissent. Ils nous prédisaient le réchauffement climatique, une hausse du niveau des mers. Puis au début, on les soupçonnait de parti pris. Et puis, de plus en plus, on fait attention à ce qu'ils disent. Puisque dans leur dernier rapport, ils nous disent que la hausse du niveau des mers est plus importante que prévu. Dans le quatrième rapport, il s'agissait de 18 à 59 cm. Mais aujourd'hui, eh bien, nous sommes à 99 cm. D'ici 2100, 1 mètre donc. Il y a une raison aussi à cette submersion. C'est le fait qu'on avait repéré qu'au pôle Nord, le Groenland voyait sa banquise être moins importante. Mais aujourd'hui, les glaciers... La fonte des glaces est beaucoup plus importante. Et dans l'Antarctique, véritablement, les glaciers de l'Ouest, de l'énorme calotte glaciaire, glissent à des vitesses un tiers plus importantes que ce qui avait été calculé précédemment. Donc, on peut se dire, eh bien, pourquoi le CCFD s'interroge sur ces questions? Il y a beaucoup de pays, dans les pays du Sud, qui sont très peuplés, où les populations vivent à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, dans ces îles qui sont à 1 mètre ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, une augmentation de 1 mètre du niveau de la mer, ça veut dire qu'en fait, l'habitation, les champs sont submergés et que là, il y a lieu de prévoir des migrations internationales très très importantes. Déjà, il y a quelques migrants climatiques, c'est important et on en parle peu, mais lorsque... Cette augmentation du niveau des mers fera que les populations du Bangladesh, par exemple, doivent migrer. Où iront-elles dans cette péninsule indienne qui est déjà surpeuplée? Le deuxième élément du rapport concernant le climat concerne le gaz à effet de serre. Les émissions ont augmenté de 2% par an entre 2000 et 2010, 5 fois plus vite que les années précédentes. Et on prévoyait qu'il faudrait contenir l'augmentation moyenne de la température climatique à 2 degrés. La limite est souhaitable si on veut éviter d'entrer dans l'inconnu climatique, mais déjà on sait que pour ne pas dépasser ces 2 degrés, il faudrait vraiment agir maintenant parce que les rendements agricoles et la pêche en souffriront, notamment dans les pays du Sud, où les populations seront frappées par des inondations et des crises sanitaires. Nécessaire donc d'avoir une transition massive dans tous les domaines, énergie, habitat. Il faudrait réduire de 40 à 70% selon ce rapport les émissions d'ici à 2050 jusqu'à les annuler et multiplier par 4 la production d'énergie verte. Cela veut dire en clair, dans nos pays, renoncer à la surconsommation, mais aussi se payer une transition énergétique pour contenir cette augmentation de la température du climat. L'addition, 32 000 milliards d'euros cumulés d'ici à 2050, moi je ne me rends pas très bien compte de ce que ça fait, mais ce que je sais quand même, c'est que dans le rapport précédent, c'était 26 000 milliards qui avaient été calculés. Ça fait beaucoup d'inflation en peu de temps, et cela veut dire que cette question est importante et qu'il faut tenir compte de ces évolutions du climat sans penser qu'il s'agit de catastrophisme excessif de chercheurs en mal de publicité.
Thank you.
l'autre partie de l'émission, je voudrais que nous revenions sur l'économie sociale et solidaire dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. Alors, on évoquait le poids en France de cette économie sociale et solidaire, plus de 2 millions de personnes salariées et environ 200 000 structures, je rappelle ces chiffres, que je tire des statistiques nationales, mais aussi du travail de Danielle Demoustier, chercheuse à Sciences Po Grenoble. Elle nous dit dans un entretien de Faim et Développement Magazine avec elle que cette économie sociale et solidaire joue un rôle important. Alors à la question de comment se structure l'économie sociale et solidaire, elle nous dit il y a quatre principales familles. Des structures comme les coopératives qui souhaitent souvent s'intégrer au marché. Et d'autre part, des tenants d'une vision étatique qui considèrent que l'économie sociale et solidaire doit être un instrument pour privilégier de nouveaux horizons économiques. Et puis entre les deux, eh bien, il y a les mutuelles et les fondations. Une diversité qui fait que l'économie sociale et solidaire est encore assez faible pour son poids politique. Mais elle commence à devenir importante, elle l'est, mais pour quelles raisons ? Et alors à cette question, pour quelles raisons ? Danielle Demoustier nous dit « L'économie sociale et solidaire permet de répondre à des besoins qui ne sont couverts ni par l'État, ni par les entreprises lucratives. » Autre aspect, l'économie sociale et solidaire répond à certaines aspirations d'une partie de la population qui se méfie de l'économie mondialisée. On voit bien que, alors est-ce une mode ou est-ce par ignorance ou par sentiment de ce qui est proche, on peut le maîtriser. En tout cas, un certain nombre de personnes se prononcent en faveur de modèles de développement plus justes et plus durables. Par exemple, il y a ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne et pratiquement maintenant, dans de nombreuses villes, il y a une AMAP. Il y en a en Eure-et-Loire plusieurs. Des consommateurs souhaitent consommer autrement. Alors c'est vrai qu'après quelques crises où on vous explique que le bœuf est du cheval, qu'il n'est pas français mais qu'il vient d'ailleurs, enfin bref. Donc pour éviter ce qui apparaît comme des mensonges, pour être sûr peut-être des produits, eh bien être en relation directe avec le producteur et le soutenir paraît être une bonne solution. Et puis aussi avance l'idée qu'il faut travailler et consommer autrement. De manière collective, cette idée gagne du terrain. Enfin, on peut se poser la question, est-ce que l'économie sociale et solidaire est la préfiguration d'un autre modèle économique ? Alors la réponse est normande. Oui, d'une certaine manière, puisque les structures de l'économie sociale et solidaire s'appuient sur l'humanisme, la solidarité. Non, parce que en fait, l'éco, c'est véritablement ce qui se passe dans la maison. Et ce qui se passe dans la maison, c'est bien au service des hommes. Donc, il y a peut-être à revoir aussi dans l'économie dite « normale », quelles sont ces valeurs ? Alors, en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, quelque chose d'important, c'est qu'elle est très démocratique, puisque chaque voix pèse de manière identique, ce qui promeut aussi une autre répartition des richesses. Une partie des excédents n'est pas redistribuée aux adhérents, ce qui permet de constituer des réserves, c'est ce qu'on appelle le capital, on a besoin de capital dans l'entreprise, quelle qu'elle soit. Et ces réserves rendent ces structures moins dépendantes de la conjoncture et donc plus résistantes en cas de difficulté. Mais bien sûr, l'économie sociale et solidaire ne peut pas être la réponse au capitalisme, car d'abord, elles concernent quelquefois des entreprises qui sont strictement sociales. Ensuite, les acteurs économiques ne sont pas tous prêts à franchir le pas compte tenu des contraintes. Mais au lieu de le voir comme un monde séparé, on peut peut-être le voir comme un monde complémentaire ou en tout cas comme un monde qui témoigne qu'une économie au service de l'homme existe. Enfin, l'économie dépend essentiellement de ceux qui sont les acheteurs en bout de course, les acheteurs de produits, les acheteurs de voitures, les consommateurs. Et les acheteurs, les consommateurs sont sensibles à certains aspects de l'économie sociale et solidaire. Les produits alimentaires peuvent être proposés dans des entreprises lucratives. Le recyclage n'est plus le seul apanage d'associations. Et on se pose la question du développement durable. Donc cette nécessité amène à repenser l'usage de l'économie dite normale. Cette économie sociale et solidaire, enfin, a bénéficié d'une loi récemment. Alors, est-ce que, là aussi, question, est-ce que la loi sur l'économie sociale et solidaire va favoriser son développement? Pour ceux qui sont intégrés dans l'économie sociale et solidaire, ils disent non, ce texte n'a pas assez d'ambition. Parce que on voit surtout dans l'économie sociale et solidaire une possibilité de créer des emplois et on met l'accent sur l'emploi et la croissance. Or, vous savez, c'est comme entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qui est en amont? On ne sait pas. Mais pour créer des emplois, il faut un marché, la mobilisation des salariés et la mobilisation des consommateurs. Donc, le phénomène de la crise, il a des répercussions sur l'économie sociale et solidaire comme sur les autres secteurs de l'économie. Pendant la crise récemment, elle n'a progressé que de 0,3%. C'est un peu mieux que le secteur privé lucratif, mais elle ne fait que être un amortisseur. Donc, les créations de postes, eh bien, elles ne peuvent être faites que lorsqu'il y a véritablement un marché et qu'il y a tous les éléments pour faire fonctionner une économie, c'est-à-dire quatre parts, hein. Il y a la part de l'investissement, la part du salaire, la part de la recherche, la part des impôts et des charges dans l'économie sociale et solidaire, comme dans les autres secteurs de l'économie. Ce qu'aurait dû être un projet de loi pour ceux qui disent il n'en fait pas assez. Ils insistent sur l'engagement citoyen et l'accompagnement des bénévoles. Il faut aussi prévoir des financements. Or, en période de disette financière, peut-être que les financements peuvent aider les associations à entreprendre, innover et se structurer, mais il faut que ces mêmes associations puissent trouver elles-mêmes des ressources, puissent accéder au financement de la Banque publique d'investissement, par exemple, pour qu'elles puissent bénéficier et de ses ressources et créer des emplois.
Et puis à Dreux, le 17 janvier, un colloque se tient sur l'économie sociale et solidaire au Lièvre d'Or, en partenariat avec le Cercle Laïque. Et
parler d'économie sociale et solidaire, c'est peut-être aussi faire avancer cette idée que l'économie est au service de l'homme et n'est pas au service de l'argent. Eh bien, à tous, je dis bonne semaine!